Vous écoutez France Culture.
Papillonner, fureter, enquêter, fouiller, déranger. Ah oui. Ah oui, ce soir, c'est bien parti pour. Quand ça arrive pour, c'est que c'est parti pour. Les passagers de la nuit enfilent leur grand manteau sombre, noir sur noir. Pour être discret sous le réverbère, à 23h, avec une, deux, trois... plein de bêtes au bout de la laisse. Chiens, papillons, autres mammifères, autres bêtes à six pattes. Ça papillonne, ça furette, ça court. Au coin de la rue, sur les trottoirs, les ruches et les gouttières. Ce soir, au son, il y a Pierrick Charles. À la réalisation, Véronique Lamandour.
Pourquoi tu m'appelles un chat alors que je m'appelle un chat?
Investigation.
Chers auditeurs, une affaire de la plus haute importance m'amène à m'adresser à vous ce soir. Vous êtes 80% à manger des œufs de poule qui ont été torturés. Eh oui, ça fait un choc, mais c'est pourtant vrai. Mais le plus étonnant, c'est qu'il est très simple de savoir d'où proviennent vos œufs. Demandez les papiers des œufs. Ou alors, pourquoi ne pas vérifier par vous-même? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pris l'avion ou pris plaisir à torturer des animaux comme des insectes, des chats ou du bois. Saviez-vous que l'une des caractéristiques que l'on retrouve le plus chez les tueurs, c'est qu'ils ont torturé des enfants quand ils étaient animaux? Comment peut-on encore manger des œufs de poules élevées en cage? Je vous le demande. Cela nous ramène tout droit en plein Moyen-Âge. Je le dis pour la pratique des supplices. Les poules aussi ont droit à respirer l'air du dehors et à marcher en libre parcours, à tremper des mikados dans un bolino sur une aire de repos. Même quand il fait pas beau, on peut aller au zoo voir les animaux au cachot. Elles ont, pour ainsi dire, droit à la vie. D'ailleurs, combien d'œufs sont jetés à la poubelle chaque jour? On surproduit de la matière vivante. C'est après ce grave constat que j'ai décidé de mener l'enquête pour vous. Oh. Et voilà, me voici donc en route pour le marché pour vous montrer à quel point il est facile d'acheter et de manger des œufs de poule élevés en plein air et en libre parcours. Élevés en plein air et en libre parcours. Oh, pardon. Oh, les jolis chapeaux. On ne sait pas si on cherche des œufs. On cherche des œufs. Bonjour, la CGT. Il y a aussi des gens de la CGT, hein. Ah, bonjour monsieur, on fait un reportage pour France Culture, pour Radio France sur les œufs. Ça c'est des œufs élevés en plein air, c'est voilà. Ça? Alors? Oh ils sont beaux, c'est des beaux œufs. Ah ils sont numérotés 0, c'est bien. C'est bien. Et je voudrais l'avoir, les œufs rouges c'est quoi?
C'est de la poule élevée au sol.
C'est-à-dire?
Comment vous expliquer ça? C'est comme du plein air sauf que les poules dorment dedans. À l'intérieur.
Ah bon. Oh, regarde, comme c'est mignon, ces petits plats comme ça, ces petites choses. Regarde dans des petites barquettes. Des champignons, des haricots verts. Oh, c'est trop mignon, des petites pommes de terre, du soja. Il y a du soja.
Allez, allez,
un
petit
œil,
là, les dames, on prépare pour
vous.
Bonjour.
Bonjour, bon poisson, allez-y. Hein.
Mais je peux
vous régaler, il n'y a rien de meilleur que le poisson.
Ben non, on cherche des œufs.
Des œufs?
Des œufs.
Des œufs?
Des œufs de poule, ça.
Moi, je préfère les œufs de tourterelle, là.
Ah, je connais pas. C'est comment les œufs de tourterelle?
Les œufs de tourterelle, c'est la couleur de leurs yeux.
Oh, vous êtes un poète, vous, hein. Vous êtes en train de me faire.
À Lorenzo, marcher. Le poissonnier, ça a toujours été un poète.
Ah, petit coquin à le Lorenzo. La jolie vendeuse de fleurs. Till it hurt you may burn. Kiss me with burning desire. Alors. My fire. Ah, là, y a des vêtements. Oh, le joli sous-vêtement.
Bretonne là.
On passe devant le monsieur. Bonjour monsieur. Je voudrais une crêpe au hareng, mais vous faites pas les crêpes au hareng. Bon, je vais prendre une crêpe au sucre alors.
Crêpe au sucre, très bien.
Vous les faites avec quoi comme œufs?
Avec des œufs.
Je sais, mais quel type d'œuf?
Bah, c'est pas des œufs que j'achète à Rungis, des œufs banals quoi.
D'accord. Vous avez un message, monsieur. Ne pas toucher à la marchande. Ah oh, ben, je ne touche pas. Bonjour, monsieur. On fait.
Oui.
Et on voulait savoir quel type d'œuf vous vendez, vous.
C'est du code 3. Ça veut dire c'est
quoi?
Un code
3,
c'est un œuf de poule.
Oui, je sais que c'est un œuf de poule. Je suis pas idiote. Mais les codes 3, ça veut dire quoi? C'est.
Alors, ça, c'est une bonne question. C'est marqué dessus.
Vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Vous n'en avez aucune. Alors ça, c'est un gros mangeur. Il me fait genre, je sais pas ce que c'est. T'as déjà vu des marchands qui ne savent pas ce qu'ils vendent? Catégorie 3. Hein, ça veut dire que les pauvres petites poules. Hein, elles sont élevées où, les pauvres petites poules? Ah, ça me détruit, ça me détruit. Au supermarché, ben c'est pareil. Récapitule. Ah ben oui, mais là, il me faut ma feuille, hein, parce que c'est scientifique. Alors, code 3. Poule élevée en cage et collée serrée dans la cage. Résultat, taux de calvitie très élevé. Ça devrait même pas exister.
Ah, moi, je prends des œufs blancs.
Les œufs blancs.
Ouais.
Les œufs blancs, c'est fait par des poules élevées en cage.
Oui, c'est pas bien.
Code 2.
Non, elles sont élevées en cage.
Poule élevée au sol. En intérieur. J'ose encore le faire.
Et pourquoi elles sont hyper cachères, c'est-à-dire.
Code 1. Poule élevée en plein air avec nourriture abjecte.
Oh, elle est pauvre.
Ça me fait mal à l'affect.
Disons que ce sont des poules qui sont nourries à l'air. Quoi.
Code 0. Poule biologique. C'est-à-dire qu'elles sont nourries avec des aliments biologiques, sans chimie ni synthèse, idem pour la qualité des sols. Et bien sûr, elles sont élevées en plein air, avec un libre parcours, et lisent la revue de l'école lacanienne.
Et moi, on me torture, personne ne me paye.
Ben, ça, c'est acceptable.
Merci Chantal. Champagne. Chantal Champagne, notre super héroïne féline, mais pas que. C'était elle. Cartoonesque et sensible, elle nous avait rendu visite l'année dernière aux passagers de la nuit en chair et en os et en résille. Elle reviendra de temps en temps pour répondre aux questions fondamentales de l'époque. Là, il s'agissait de... une chasse aux œufs. Rêver, allez. Rêver, raconter.
Il y a un loup qui me dévore le bras, ma sœur se noie et je ne peux rien faire. Elle est dans un fond d'eau, dans une baignoire, et je suis spectatrice et paralysée par le loup. Au centre Georges Pompidou, nous sommes poursuivis par une araignée. Finalement, elle tombe dans un trou et elle est transformée en viande hachée. Avec mon mari, on vit dans un métro inondé entre deux salles. Et c'est normal, on a papier, on nage, on s'occupe d'un petit poisson clown. Je m'amuse à l'attraper avec une écumoire ou un seau. Ça fait rire mon mari, mais ça fait pas rire le poisson. Parfois, on l'aide à flotter, on le soutient, on l'empêche de se fatiguer.
Perrine raconte. Perrine Kervran raconte tout simplement ses propres rêves, accompagnés de sons, de vrais sons, réalistes. Réalistes comme le rêve. À suivre. Chat, poisson clown, chat, poisson clown, papillon, chat, poisson clown, papillon, abeille, les abeilles. Les abeilles ont des amoureux. Les abeilles ont quelques problèmes, paraît-il, mais les abeilles ont des amoureux. Nous voilà en compagnie des observateurs et protecteurs, soucieux et passionnés, des abeilles sauvages, dans un reportage de Céline Leclerc et Séverine Cassard.
C'est quelque chose que les gens ne voient pas forcément parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder de si près les insectes, mais c'est tout autour de nous, quoi. Disons que quand on a un peu l'œil, on a l'habitude de les voir.
Une abeille sauvage, c'est une abeille qui ne vit pas en colonie, qui vit en solitaire, qui ne fait pas de réserve de miel pour l'hiver, pour sa descendance, qui du coup n'a pas de reine.
Alors c'est pas une abeille sauvage, c'est des abeilles sauvages, parce qu'il y en a une diversité. Diversité en termes de taille, en termes de nourriture, en termes de type de site de nidification. Donc qu'est-ce que c'est qu'une abeille sauvage? Déjà c'est tout ce qui n'est pas une abeille mellifère en fait, donc qui vit pas en ruche, qui passe pas l'hiver non plus. Et puis on peut dire que ce que c'est qu'une abeille sauvage, c'est un élément important de la pollinisation, quoi. D'autant plus important qu'il y a une grande diversité et que du coup ça pollinise un grand nombre de fleurs différentes aussi. Après c'est nos amis les bourdons, c'est plein de types aussi. Les bourdons font partie des abeilles en fait, hein. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'insectes dont on ne sait pas du tout que c'est des abeilles, donc c'est ça qui est intéressant dans ce programme, je trouve, c'est de découvrir un peu toutes ces insectes qu'on voit partout, en fait, qui sont en fait des abeilles sauvages et qui pollinisent et qui ont un rôle essentiel, alors qu'on les voit pas principalement. Quand on n'en parle pas, on les voit pas. C'est les fantômes de la pollinisation qu'on ne voit que quand on en parle, quoi.
C'est l'été à Lyon. Dans l'ancienne capitale du ver à soie, les membres de l'association Arthropologia œuvrent ensemble pour faire connaître et pour protéger une poignée d'insectes sans gloire. Je pense à Jean-Henri Fabre, le grand entomologiste du XIXe siècle. Aurait-il pu imaginer qu'un jour, les mégachiles, les osmies, les chalicodomes auxquels il avait consacré une vie entière d'études n'auraient plus nulle part où nicher? Moins de 100 ans après sa mort, l'urbanisation a fait reculer la friche, l'armas comme il l'appelait, si précieuse pour la survie des insectes. Lui, le pédagogue infatigable, qui poussait ses élèves hors de leur classe, que penserait-il de Charlotte, Caroline, Hugues, Frédéric et les autres, jeunes amoureux épris d'abeilles sauvages? Les reconnaîtrait-il comme ses héritiers? Peut-être, ou peut-être pas. Mais en ce 3 juillet, dans le parc de la Tête d'Or, Nous cheminons dans l'ombre d'un fantôme à la haute silhouette mince, tendant l'oreille pour saisir l'écho de ses si fines observations.
Journée complémentaire, ça consiste en quoi ? Donc le principe, c'est que le public arrive ici à 9h du matin. Donc on leur fait un petit topo sur la problématique du sujet, leur expliquer un petit peu le but du programme, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Et puis ensuite, donc, ils nous donnent un coup de main pour préparer les matériaux. Donc c'est du perçage de bois, de la découpe de tiges, etc. Évidemment, en discutant, en essayant de répondre au maximum à vos questions, pour que du coup, vous puissiez évidemment apprendre des choses.
Alors, le programme Urban Biz, donc c'est un programme européen. C'est un programme qui a lieu sur 5 ans où donc on va tester différents aménagements, différents modes de gestion pour favoriser les pollinisateurs en milieu urbain et périurbain. Donc les journées éco-volontaires, donc, ça nous permet d'avoir de la main d'œuvre pour faire des trous, couper des branches, etc. parce que ça prend extrêmement longtemps. C'est 4 milieux différents, semi-naturels, agricoles, périurbains et urbains. Donc là, on est dans un site urbain, on est à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or. Donc les aménagements sur chaque site consistent à avoir installé 3 hôtels qui sont remplis donc, de bois percé, c'est ce qu'on va faire ici, de branches coupées donc, dans lesquelles les bestioles viennent nidifier, mais aussi, puisque 80% des abeilles nichent dans le sol, des carrés de sol où on a testé différentes qualités de sol avec plus ou moins de sable, plus ou moins d'argile, et puis une spirale aromatique, qu'on appelle une spirale à insectes aussi, qui est un mur d'une dizaine de mètres monté en spirale, donc, qui permet d'accumuler la chaleur et de la restituer dans la terre. Et donc on plante des aromatiques dans une terre qui est maintenue sèche, qui est un milieu privilégié pour la nidification des abeilles. Quand je dis abeilles, je ne pense pas à l'apiculture, puisque l'apiculture, c'est l'élevage d'une espèce d'abeille, et en France, on a près d'un millier d'espèces d'abeilles. Les abeilles que vous pouvez connaître, c'est par exemple les bourdons. Les bourdons, il y a 48 espèces de bourdons en France, donc ça représente 5% de la faune. Il y a aussi peut-être que vous connaissez les xylocopes, les grosses abeilles charpentières qui sont noires avec des reflets violets. Donc ça, c'est les plus grosses des abeilles. Mais les plus petites font à peine la taille de leur œil. Elles font 3 mm, quoi, les nomioïdes. Donc voilà, c'est très très varié. Pour comparaison, il y a 350 espèces d'oiseaux en France. Donc, mais faites le test autour de vous. Vous verrez qu'en fait, peu de gens sont conscients du nombre, de la variété, la diversité des espèces d'abeilles. Ouais. Ah, un petit bourdon. Bourdon voilà. Du groupe terrestre.
Et voilà, avec les fesses blanches.
Avec les fesses blanches.
C'est pas où ?
On voit son dard sorti là un petit peu. Ouais, j'arrive. Et les petites boulettes de pollen, c'est bien une ouvrière en train de récolter.
Là, on vous voit faire des trous dans une bûche. À quoi ça sert exactement ?
Alors ça servira de lieu de nidification aux abeilles sauvages en fait, ces trous-là. Elles vont aller chercher en fait la nourriture dans la nature, le pollen et le nectar dans les fleurs, qu'elles vont venir en mettre en petites boulettes au fond de la loge. Ensuite l'abeille va venir pondre à l'intérieur, elle pond un petit œuf. Ensuite elle repart chercher de la terre un peu boueuse pour monter un petit muret. Et après elle refait la même chose derrière, elle remet un stock de nourriture, un œuf, un petit muret, un stock de nourriture, un œuf, un petit muret. Et ensuite, il faut attendre quelques semaines. C'est ça, hein, oui, je ne me trompe pas, c'est de l'ordre des semaines, l'éclosion.
Avant que le pollen et le nectar pourrissent, quoi. La larve, elle doit manger dans les 3-4 semaines les réserves avant que les réserves pourrissent. Donc c'est très très rapide. Et puis la grosse larve qui a tout mangé, elle attend 11 mois. Et au bout de 11 mois, elle va se nymphoser, donc faire une nymphe. Et quelques semaines après, se métamorphoser, donc l'adulte va sortir.
Tu veux faire toute seule?
Ben
non, ma puce, je préfère. Il faut que ça soit bien régulier pour les abeilles. Regarde, on n'a pas fini celui-ci, il n'est pas assez loin. Voilà, allez. Voilà, hop, ça suffit. Maintenant, tu passes à tes sœurs. Vas-y. Ouais, super. Voilà, maintenant tu passes.
Comment elle sait qu'il y a une bûche percée pour elle, l'abeille solitaire?
Moi, je pense qu'elle le sait à l'odeur, parce que là, on est un petit peu tard dans la saison pour les osmies, par exemple, mais quand on perce au mois de février-mars et qu'il y a des osmies partout, on perce, on ressort la mèche, elle rentre dedans. Donc je pense que l'odeur du bois travaillé, ça doit les attirer aussi. Ouais, c'est probable, hein, de toute façon, les insectes fonctionnent à l'odorat. Alors, ils sentent pas avec le nez, ils sentent avec les antennes, Donc en fait, elle recherche les cavités. Mais en fait, voilà, faire des nichoirs, ça n'a aucun sens. La Terre, elle est immense, il y a 550 000 km² en France. C'est-à-dire, c'est ridicule, faire des nichoirs à piaf, c'est complètement ridicule. Pourquoi on fait des nichoirs à oiseaux? Ils peuvent pas se démerder tout seuls? Ben non, parce qu'on a détruit tous les gros fûts pour des fausses questions d'esthétique et de sécurité. On a détruit tous les gros fûts. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fabrique un nichoir à oiseaux? On fait un morceau d'arbre fermé par du bois avec un trou, voilà. On refait un morceau d'arbre. Et ben là, c'est pareil, on a éliminé tous les tas de bois, les vieux fûts, etc. Et donc, on fabrique les trous de sortie des larves de coléoptères. Parce qu'une fois qu'elles se sont développées dans un tronc d'arbre, et ben elles ressortent, ou dans une bûche, elles ressortent en faisant un trou. Et c'est ça que les abeilles viennent squatter. Donc, on refabrique des choses qui ont été éliminées de la nature pour refournir un espace de nidification.
Justement, on entend beaucoup dire que les abeilles vont disparaître et que justement, si elles disparaissent, ça sera une catastrophe justement pour la reproduction de plantes.
Oui, alors ce dont on entend souvent parler, c'est de la disparition ou du déclin important d'une espèce, de l'abeille mellifère, parce qu'on traite encore une fois pas l'écologie par la voie de l'écologie, mais on traite l'écologie par la voie de l'économie. Le déclin des abeilles de ruches, hein, des abeilles mellifères, alors il est important encore, cette année, cet hiver dans le Rhône, 44% des ruches ont disparu. Donc ça continue à être quand même important. Pour ce qui est des abeilles sauvages, le problème il est encore plus important. Puisque dans une ruche, on a une reine qui est cachée au fond de la ruche, hein, avec un certain nombre d'ouvrières qui partent butiner. Si elles sont intoxiquées, bah, elles ne rentrent pas. Si elles sont désorientées, elles ne retrouvent pas leur ruche. Et puis les populations commencent à diminuer jusqu'à ce que la ruche soit impactée dans sa globalité. Chez les espèces sauvages, c'est différent, puisque la majorité sont des espèces solitaires ou grégaires. Mais quoi qu'il en soit, les butineuses qui vont sur les fleurs sont les pondeuses. C'est-à-dire que si on intoxique les butineuses, ce n'est pas une réduction de la population, c'est un arrêt net de la reproduction. Donc le problème, c'est qu'on associe la pollinisation à une espèce. Là, il y a un véritable problème d'écologie, c'est que c'est faux. D'après des études menées par des chercheurs belges sur les abeilles, il semblerait qu'elles soient responsables de 15% de la pollinisation agricole, les abeilles de ruche. Le reste, c'est les autres pollinisateurs sauvages, donc essentiellement les abeilles sauvages. Et donc ça n'a aucun sens écologiquement de s'attarder. J'ai absolument rien contre les apiculteurs, contre l'abeille de ruche, et moi aussi j'ai des ruches et je fais du miel et j'adore tous les produits de la ruche, mais écologiquement, c'est une hérésie de s'attarder sur 0,1% des espèces, c'est-à-dire une pour mille. Eh ben non.
Parce que les abeilles vont venir, vont être attirées en fonction de...
Ah bah ça fait partie des choses qu'on va tester, ouais. Voilà, quelles essences sont plus attractives, voir s'il y a une sélection des espèces ou de quelques espèces, des choses qu'on va affiner pendant ces années-là.
Si ça se trouve, dans certains arbres, il n'y aura rien du tout.
Si ça se trouve. Alors on n'a pas trop mis de résineux par exemple, parce que a priori la résine, ben, l'odeur elle est quand même faite pour repousser les insectes, donc ça risque d'être trop aromatique. On en a quand même essayé, hein, pour voir ce que ça donnait, et de toute façon on se laisse la possibilité de modifier des bûches dans les années à venir. Voilà les fameux hôtels, les trois hôtels. Alors on a bien réfléchi pour avoir du bois local, du bois imputrescible qui plonge dans la terre, donc c'est des demi-troncs de châtaignier classe 4. Et donc là on met les bûches, les fagots, et dans le sol qui va rester au milieu, là, le casier du milieu, ça va être des briquettes percées.
C'est beau en plus,
c'est joli, hein, on est super, super contents, c'est magnifique.
Est-ce que certaines bûches sont déjà occupées, Hugues Mouret ?
Alors oui, on en voit certaines qui ont été donc installées, enfin percées probablement à partir de février, mars ou avril, et qui ont dû être squattées pendant qu'elles étaient dans les caisses. Donc là, les petits remplissages de terre sèche, hein, c'est ce que les abeilles viennent prélever au bord des mares ou quand il reste des flaques au bord des flaques. Donc c'est de la terre glaise qu'elles assèchent et qu'elles déposent et qui fait une porte. Alors ça, c'est des espèces qui ne peuvent pas nidifier sous la pluie. Alors qu'il y a vraiment des espèces qui font un mortier super dur, elles peuvent nicher à la verticale, c'est-à-dire la pluie peut tomber pendant un an dessus, il ne se passe rien. Et il y en a même qui nidifient sur les pierres, donc des espèces rupestres, comme des calicodomes, hein, c'est des mégachiles qui font des nids en terre. Pour les enlever des pierres, il faut y aller au marteau, c'est-à-dire c'est impossible autrement.
Calicodome, c'est-à-dire maison en caillouetage, en béton, en mortier. Ce nom s'applique à des hyménoptères qui bâtissent leurs cellules avec des matériaux analogues à ceux que nous employons pour nos demeures. Il faut voir l'active abeille à l'œuvre quand le chemin resplendit de blancheur sous les rayons d'un soleil ardent. L'air semble traversé par de continuels traits de fumée, tant l'essor des travailleurs est direct et rapide. Tout le corps en vibration, il gratte du bout des mandibules, il ratisse avec les tarses pour extraire des atomes de terre et des granules de sable qui, roulés entre les dents, s'imbibent de salive et se prennent en une masse commune. L'ardeur au travail est telle que l'ouvrier se laisse écraser sous les pieds des passants plutôt que d'abandonner son ouvrage.
C'est quoi la taille du trou, là, à peu près ?
C'est des mèches de 6. Ouais. Mèches de 6 et mèches de 8.
C'est à ça que vous reconnaissez l'espèce ? Enfin, oui, vous pouvez faire l'hypothèse de
oui,
l'espèce
voilà,
en fonction.
Hein, oui, pas oui, du tout sûr. Si c'était du 8, c'est probablement l'osmia corne, parce que c'est trop gros pour l'osmia rousse, mais dans le 6, ça peut être les deux, mais il y a des chances que ce soit l'osmia rousse. On verra quand elles sortiront l'année prochaine.
Février a de belles journées. L'amandier, au péril de ses fruits, s'empresse de répondre à ses préludes, trop souvent trompeurs, des fêtes du soleil. En quelques jours d'un ciel doux, il devient superbe coupole de fleurs blanches où sourit un œil rose. Dans le dôme fleuri, susurrent les seins affairés. C'est la population des osmies, à peau cuivreuse et toison d'un roux vif. Naguère, ils ont rompu le cocon, l'habitacle d'hiver. Ils ont quitté leur retraite dans les interstices des vieilles murailles. Si la bise souffle et fait frissonner l'amandier, ils se hâteront d'y rentrer. Salut, ô mes chers osmies, qui, chaque année au fond de l'armasse, en face du ventoux, m'apportez les premières nouvelles du réveil entomologique.
Tiens, je vous ai pris des abeilles. Alors deux.
Je suis de vos amis. Causons un peu de vous.
Voilà, celle-là, je l'ai prise sur les trèfles, en train de butiner. Et regardez, celle-là, elle ressemble un petit peu.
Jean-Henri Fabre.
Mais regardez, le pollen, elle le récolte sous le ventre.
Souvenir entomologique.
Vous voyez, sous le ventre. Vous voyez, là, les poils brillants, orange sous le ventre.
Oui.
Cats and Dogs de Camille.
C'est la nuit.
Allez, on ferme l'animalerie ce soir. Ce soir, Chantal Champagne chassant les œufs. C'est une production d'Amandine Casadamon et Angélique Thibault, mixée par Éric Boisset. Le rêve de Perrine, c'était celui de Perrine Carvran, réalisé par Marie-Ange Garando. Sophie Bissens était au bruitage et au mixage Bernard Laniel. Et La visite aux abeilles était de Céline Leclerc, une réalisation de Séverine Cassard. Au son, Julien Bourdet et Éric Boisset.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. voilà les passagers de la nuit.
Les passagers de la nuit sont préparés, coordonnés par Yael Mandelbaum et Inès De Bruyne. Prise de son et mixage ce soir, Pierrick Charles, réalisation Véronique Lamandour. Franceculture.com et Facebook pour aller plus loin et échanger. Thomas Baumgartner, où la nuit est avancée. À demain.